Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Priscille Lafitte.
Mémona Interman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter à France 3, spécialiste du Proche-Orient, et vous venez de signer un livre magnifique, très émouvant, intitulé « Tête haute », paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Un livre dans lequel vous révélez votre secret. Vous êtes né sur l'île de la Réunion, et non pas en Algérie, comme certains peuvent le penser, d'un père musulman né en Inde et d'une mère d'origine bretonne. Et à partir de cet héritage multiple qui a signifié dans votre enfance séparation des parents, conflits obscurantistes des religions, la misère la plus extrême, vous avez cheminé et réussi. Le système de l'ascenseur social par l'école républicaine a marché à plein pour vous. Et vous livrez des réflexions sur la discrimination positive, sur cet ascenseur social que promet la République aux plus méritants, sur votre attachement à une certaine idée de la France. Déjà, Mémona Interman, pourquoi avoir écrit ce livre maintenant? Est-ce que les élections vous ont poussé à livrer une réflexion? Ou ça n'a rien à voir?
Non, le déclencheur pour ce livre, c'était vraiment novembre 2005. Novembre 2005, c'était les émeutes en banlieue, comme on dit. Mais en réalité, on l'a peut-être oublié, 200 villes ont été concernées par des voitures qui flambaient toutes les nuits, cette espèce de syndrome typiquement français où tout d'un coup, on se dit, c'est la révolution, on va tout renverser. Et pourquoi? Et ces images-là, je les ai vues chez nous, sur les écrans en France. Je les ai vues aussi à l'étranger, puisque j'étais en reportage à ce moment-là, justement, au Proche-Orient. Et je les ai vues d'une façon démultipliée. Je me suis dit, à ce moment-là, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout d'un coup, c'est comme si, pour le reste du monde, la France donnait l'idée qu'elle avait été une marâtre, une méchante, qui n'aimait pas ses petits de toutes les couleurs. Et j'ai trouvé ça très injuste. Très injuste dans les principes, puisque ça ne correspond pas à la réalité, très injuste à l'égard des Français, de tous ces Français, tous ces anonymes, tous ces « petites gens », entre guillemets, comme on dit souvent, c'est-à-dire ces gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui pourtant ont financé, comme pour moi, l'école, les hôpitaux et tout le reste. Donc, tout d'un coup, culpabiliser le reste de la France en disant « Regardez, vous voyez comme ils sont vilains, tous ces Français qui ont laissé tomber les enfants de ceux qui viennent des horizons les plus lointains, qui n'ont pas des logements adéquats, qui n'ont pas de travail. » Mais c'est difficile pour tout le monde, tout ça. Et c'est pas forcément la première génération qui s'en sort. Cette génération de jeunes d'origine immigrée, je le dis en pesant mes mots, d'origine arabe, d'origine africaine, d'origine comme moi, de l'île de la Réunion, donc ouvert aux quatre vents de l'histoire et aux quatre vents des atomes de l'être humain, nous ne pouvons pas tout d'un coup dire aux gens qui ont construit ce pays, depuis des générations et des générations, poussez-vous de là que je m'y mette. Hein, j'emploie la formule exprès. Et en effet, lorsque j'étais littéralement furieuse en voyant ces images, puisque on faisait comme si c'était bien fait pour la France de recevoir en plein visage toutes ces images d'émeutes, de violence, de reproches. Non, il ne faut pas se transformer tout le temps en victime. Et moi, je pouvais en parler. Je m'étais dit que je n'écrirais jamais de livre, vraiment jamais. Pourquoi? Parce que je suis partie finalement d'un bagage assez mince. J'ai appris le français à l'école, au catéchisme. Mais si vous voulez, la langue française est une appropriation que je me suis faite un peu par volonté certainement, avec beaucoup de chance, l'acharnement des instituteurs, un peu de travail. Mais se dire, je vais écrire un livre alors que, regardez où nous sommes ici, Canal Academy, avec cette histoire, le poids de l'histoire sur le dos, on ne peut pas se dire, tiens, moi aussi je vais écrire quelque chose, ou alors c'est un... Mais je me suis rendu compte que finalement le livre était aujourd'hui, malgré le développement de toutes les technologies électroniques, le livre reste un moyen de communication de masse, bizarrement. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre pour mettre noir sur blanc un certain nombre de choses qui ne sont pas dans l'air du temps, qu'on ne veut pas dire, parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle, pardon, la pensée unique, c'est-à-dire on doit dire si... On doit dire ça sur tel ou tel sujet. Si on ne le dit pas, alors on est voué aux gémonies. on est passible de l'enfer. Moi, je peux dire ces choses-là. Je peux appeler un chat un chat.
Parce que justement, et votre livre en parle beaucoup, de vos origines, de votre parcours en fait. Et votre réflexion se base sur ce parcours, sur le parcours de votre vie.
Ah, c'est pas du tout un livre, ce qu'on appelle chez les journalistes, un livre jus de crâne. C'est pas un jus
de crâne. C'est pas un essai politique. Hein.
C'est pas un essai pour faire bien et être aux devantures des librairies en disant, regardez, j'écris bien, je pense bien. Non, j'ai l'expérience de la vie, au fond. J'ai eu énormément de joie à rencontrer les peuples les plus divers de la Terre, mais il est vrai que ma propre traversée de l'existence suffirait à montrer à quel point la vie peut être d'une façon troublante et étonnante, pleine de surprises. Mon itinéraire, c'est celle d'un enfant extrêmement pauvre. Mais quand on dit pauvre, on imagine que je n'ai pas le dernier pullover à la mode et que je n'ai pas toute l'électricité que je voudrais pour faire mes devoirs et que finalement je dois prendre un bus ou le métro au lieu d'avoir une voiture, un 4x4. Non. Pauvre, ça veut dire ne pas avoir à manger ni aujourd'hui et demain, on n'a non plus aucune idée de ce qu'on va mettre dans la marmite. Pauvre, ça veut dire aller à l'école sans cahier, sans stylo, sans rien. Et puis on y va quand même parce qu'on sait que c'est là que ça se passe. Et que ma mère, qui était une femme d'origine très modeste, avait elle-même compris que c'est l'école qui allait nous sauver. La pauvreté, c'est quelque chose qui vous ronge le moral. Mais moi, je n'ai pas pris ça du tout comme une situation de faiblesse. Je me suis dit, c'est chouette l'école. C'est vraiment chouette parce que c'est un autre décor que celui que j'avais tous les jours sous les yeux.
Alors pour mettre en regard votre expérience avec justement ces émeutes en banlieue en 2005, est-ce que vous avez l'impression que cet ascenseur social dont vous avez bénéficié par l'école, par les concours, parce que vous êtes rentré à l'ORTF par concours, est-ce que cet ascenseur marche toujours ?
Est-ce qu'il y a un autre choix ? Aujourd'hui, les enfants pauvres, en tout cas assez modestes, en banlieue, mais pas qu'en banlieue. Dans les zones rurales françaises, il y a beaucoup de gens qui sont très justes et qui vivent très modestement et qui n'ont pas plus accès à la culture que ceux qui sont à Mantes-la-Jolie ou à Marseille dans les quartiers nord. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas non plus faire un tableau de la vie en France en mettant tous ceux qui sont comblés d'une façon ou d'une autre et puis les autres qui n'ont pas voix au chapitre. Non, je dis qu'aujourd'hui, ceux qui sont vraiment dans une situation où ils se disent « il faut que je m'en sorte, comment je dois faire ?» que ces gens-là prennent des choses à bras-le-corps. Ce n'est pas facile, hein. Mais enfin, aujourd'hui, qui meurt de faim en France ? Pas grand monde. Qui manque de livres ? Pas grand monde. Il y a quand même beaucoup de bibliothèques. Il n'y avait pas de bibliothèque dans ma vie et dans ma ville. Il n'y avait pas l'abbé Pierre, il n'y avait pas le Secours catholique, il n'y avait pas les subsides, le RMI, etc. Donc il y a quand même un certain nombre de choses que la France a mises en place. Et pour tous ces enfants qui viennent de milieux extrêmement démunis, il y a au moins quelques ficelles qui permettent d'espérer que demain sera mieux. Mais évidemment, pas en devenant célèbre tout d'un coup. On a l'impression qu'aujourd'hui, en 2007, s'en sortir, ça veut dire tout d'un coup être numéro un dans un groupe de rap ou être la chanteuse fétiche de la banlieue, gagner beaucoup, beaucoup d'argent très vite, être très célèbre. C'est pas ça, s'en sortir. S'en sortir, ça veut dire grimper comme un commando le long d'une falaise et de se dire, j'avance, je veux pas qu'on me tire dans le dos. C'est ça, s'en sortir. C'est pas une réussite qui vous fait miroiter la célébrité du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a une autre solution pour s'en sortir que apprendre, que l'éducation, que l'école ? Il n'existe pas d'autre moyen. Alors, peut-être que cette génération-là va en baver encore. Peut-être que leurs enfants se porteront mieux. Mais si on ne commence pas dès aujourd'hui, dès maintenant, à se dire « je peux faire quelque chose, je ne suis pas une victime », on peut avancer. On avance si on croit aussi qu'on peut avancer. Hein.
Vous vous positionnez dans ce livre, d'ailleurs, contre la discrimination positive.
Qu'est-ce que c'est la discrimination positive ?
Qui est pour vous une forme de victimisation, en fait.
Vous savez, la discrimination positive, je pense que dans l'idée de ceux qui l'ont promue en France, ça partait peut-être d'un bon sentiment en disant « il faut faire quelque chose ». Et il se trouve que parfois on se trompe et que c'est une fausse bonne idée, la discrimination positive. Pourquoi ? On l'a vu déjà sur la foi de l'expérience aux États-Unis. Affirmative action aux États-Unis, c'est l'ancêtre de la discrimination positive à la française. Ça a été inventé dans les années 64, 65, par Lyndon Johnson, le président américain, qui a dit « Il faut faire quelque chose pour les gens qui avaient subi la discrimination aux États-Unis. » Une discrimination horrible, où les Noirs d'Atlanta, par exemple, ou du Mississippi, n'avaient pas le droit de monter dans les mêmes bus, d'aller prier dans les mêmes églises. Les hôpitaux, n'en parlons pas, les écoles, n'en parlons pas. Donc, l'Amérique, qui a le secret de ces grands gestes de générosité, tout d'un coup se dit « Il faut faire quelque chose. » Alors, on a proposé au président Johnson une idée comme cela qui pouvait permettre aux gens de grimper un peu 3 ou 4 marches de la société en leur donnant un peu plus de facilité pour les écoles, pour les universités, etc. Et peu d'années après cela, on s'est bien rendu compte que ça n'avait pas changé grand-chose dans ce qu'ils appellent les neighborhoods, c'est-à-dire les voisinages, les endroits où les gens habitaient. Parce que dès qu'un noir ou un hispanique réussissait, hop, aussitôt il quittait cet environnement-là et il ne venait pas au secours de ceux qui avaient besoin de lui pour lui donner la main et avancer un peu plus. Et que ça n'a pas changé grand-chose en dehors de quelques têtes d'affiche. Alors on va me dire, oui, mais Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, l'ancien général avec des tas d'étoiles dorées sur son uniforme, notamment pendant la première guerre du Golfe, ou que Condoleezza Rice, qui est la personne, la femme qui a pris sa succession, quelque sorte, des années après, que ces gens-là n'auraient pas pu émerger. Bien sûr qu'il y a des têtes d'affiche, mais moi, je peux vous assurer qu'en parcourant les États-Unis, pas seulement à New York, mais dans des ghettos tout près de la Maison-Blanche, je connais un quartier qui s'appelle Anacostia, qui est à 15 minutes de voiture de la Maison-Blanche. Et si vous allez là, vous vous rendez compte que quelque chose cloche et que la discrimination positive n'est pas la panacée, loin de là. À tel point qu'en 1996 déjà, la Californie a voté la suppression par référendum de la dite affirmative action, discrimination positive. L'année prochaine, lors des élections de 2008, vous savez, aux États-Unis, lorsqu'on vote pour le président des États-Unis, il y a aussi toutes sortes de votes qui sont soumis à discussion et donc avec un bulletin de vote à la clé. Eh bien, il y a 7 États des États-Unis d'Amérique qui vont proposer la suppression de la discrimination positive par référendum. Et en regardant les déclarations de gens qui s'y connaissent, notamment l'un des principaux responsables des groupes anti-discrimination, Connolly, un noir conservateur, mais noir, qui a grimpé les échelles de la société, pas qu'une échelle, mais plusieurs échelles, il a dit, il ne faut surtout pas changer la loi. On lui a posé la question, mais monsieur, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui en France veulent promouvoir cette idée? Il a répondu, surtout, ne changez rien, faites en sorte que les gens arrivent à grimper dans la société en s'appuyant justement sur les textes en vigueur. Parce que sinon, ça ne fait pas avancer beaucoup. Ce sont des gens qui sont au ras de la réalité, qui sont sur le mur de la réalité. Ce ne sont pas des gens qui veulent faire plaisir pour avoir monsieur un tel, mademoiselle un tel, qu'on verra à la télévision. Et alors? Et ça change quoi? Et je vais vous dire une chose, qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais vous parlez dans le vide, comme on dit chez moi. Non, j'ai des nièces de toutes les couleurs à la Réunion. Toutes religions aussi, hein, musulmans notamment, bouddhistes, chrétiens. Et parmi mes nièces très noires, Annabelle ou Anaïs. Et Anaïs et Annabelle disent « mais non, pas de discrimination positive, on ne veut pas de cadeaux empoisonnés. » Parce que vous savez, ces filles, elles ont fait des études. Mes frères sont analphabètes. Mais ces filles ou ces garçons, neveux et nièces, ont tous fait des DESS de ceci et des DEA de cela. Et craignent une chose, c'est qu'en venant un jour en métropole, ici, à la tête d'une responsabilité dans une entreprise, de l'administration, qu'on les regarde en disant, mais voyez, regardez, ils ont plus de pigments qu'un autre, ils sont plus ou moins noirs avec des têtes bizarres et des yeux de toutes les couleurs, donc ils ont été promus à ces places parce qu'ils sont originaires de l'île de la Réunion, donc discrimination positive. Je dis que c'est une double peine, parce qu'il y a eu la difficulté pour ces enfants d'apprendre, d'aller dans les universités, et les parents se sont saignés aux quatre veines. Et ayant fait cela, ils ont, ces enfants, réussi en ayant de bons diplômes. Si demain, on les voit et qu'on leur dit « ben voilà, t'es un cadeau, t'as eu un cadeau, tu n'es pas à ta place », c'est terrible pour eux. Ils ne veulent pas de la discrimination positive. Je souligne aussi que même quelqu'un comme Lilian Thuram, qui est le défenseur de l'équipe de France, on ne peut pas dire qu'il soit sarkozyste d'ailleurs, et qui est noir. Bon, Est-ce que c'est une insulte de dire à quelqu'un qu'il est noir? Certainement pas. Dans ma famille, pour nous, c'est pas une insulte. Mais même Thuram dit que c'est un leurre, la discrimination positive. Je dis que c'est un vieux truc. Ce truc, il faut le laisser tomber. Faites en sorte que ceux qui, comme moi, viennent des profondeurs de la société, qu'on nous dise, allez, grimpe, avance, continue, fais un effort, regarde devant toi, ne regarde pas derrière, et surtout ne sois pas jaloux des enfants qui sont plus chanceux que toi, qui ont des familles. Mais si tu fais un effort, tu vas voir, c'est bien. Et je crois beaucoup à ce vieux proverbe. Un jour, en Iran, quelqu'un m'a dit, vous savez, la patience est un arbre dont les racines sont amères et les fruits savoureux. Oh, je dis, c'est beau ça. Et cette personne qui était mon fixeur en Iran m'a dit, c'est un proverbe chez nous. Je lui ai dit, bravo, je vais en faire mien. Oui, la patience est un arbre dont les racines sont amères et les fruits savoureux.
Oui, parce que la discrimination positive est là pour amener plus de justice de façon plus rapide, en fait.
Mais quelle justice ? Mais quelle justice la discrimination positive ? Vous allez donner à une fille, allez, je prends ma nièce, qui, bon, elle a fait des études, mais prenons-en une qui n'a pas fait beaucoup d'études, on va lui donner un boulot. Alors, ça va peut-être l'aider elle, mais tous les autres. Et la fille qui est dans la Creuse, ou à Cap-Breton dans les Landes, et qui est blanche, qui a le même niveau d'études, alors celle-là, elle ne va pas avoir le boulot. Mais ça va faire des divisions de la société. Mais les gens ne vont plus pouvoir se sentir. Quand j'étais recrutée avec un collègue à la radio et à la télévision à l'île de la Réunion, l'ORTF, dans les années 75, lorsque les gens nous ont vus arriver, nous étions des ovnis, mais tout le monde l'a accepté. Les blancs, les noirs, les malabars, les chinois, les bâtards comme moi. Pourquoi ? Parce que dessus c'était marqué concours, réussite, égale justice. C'était pas on te fait la courte échelle parce que tu es plus ou moins marron. C'est comme ça que les gens acceptent la règle du jeu. La règle du jeu, c'est pas ce permis, cette autorisation d'entrer dans les places parce qu'on est plus ou moins pigmenté. Ça va nous apporter à la longue ce qu'on a vu dans les Balkans. Moi, j'ai vu dans les Balkans comment ça s'est passé tout ça. Ça s'est terminé dans la guerre civile. Vraiment, c'est pas une action du développement durable, la discrimination positive. C'est un sale petit truc. À la poubelle. Point.
Nous marquons une petite pause.
Dans sa médiathèque, Canal Academy vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire ? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique ? Quels sont ses combats ? Quelles sont ses fiertés ? Ses projets ? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Academy.
Mais Mona Interman, est-ce que pour autant vous êtes pour ou contre ce qu'on appelle le chiffrage ethnique ou un chiffrage qui est en France ?
Oui, absolument. Vous savez pourquoi ? D'abord parce que nous, à La Réunion, moi en tant que fille mélangée, moitié musulmane, je suis allée au temple coranique avant d'aller à l'église. Dans ma famille où nous sommes tous mélangés, nous n'avons pas le complexe de nos origines, du tout. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, je me souviens d'un petit livret de géographie qui était orange. Il y avait, à l'époque, à La Réunion, tant de musulmans, tant de chinois, tant de créoles de tel ou tel aspect. Ça ne m'a jamais choqué. Je trouve qu'en France, à force de faire la politique de l'autruche, on ne sait plus très bien où on va. En Allemagne, pays voisin qui aujourd'hui est fidèlement amarré à la démocratie, en Allemagne, il y a l'Institut fédéral des statistiques et qui a pu établir chiffres à l'appui qu'il y a tant d'Ukrainiens, tant de Polonais, tant de Turcs, tant de Kurdes, etc., etc. Parce que comme tout chef d'entreprise qui veut mener une politique du logement, par exemple, on veut savoir quelle est, comme on dit dans la pub ou dans le marketing, la cible. Il y a combien de monde ? Combien de gens sont concernés ? Alors en France, on ne veut pas en parler parce que visiblement, il y a les vieux relents qui datent de Vichy, qui datent des années 40. Mais je pense aussi que c'est lié à beaucoup de gens qui, sous prétexte que c'est mal vu, la gauche n'admet pas ça. La gauche n'admet pas qu'on puisse dire il y a tant de gens qui viennent du Maghreb, tant de gens qui viennent par exemple de la Turquie, tant de gens qui viennent du Moyen-Orient, tant de gens qui viennent de l'Asie. Pour elle, c'est discriminatoire. Ce n'est pas une discrimination. On a besoin de savoir combien nous sommes, qui est concerné, qui fait quoi. C'est une simple question pratique pour pouvoir prévoir l'avenir. Et je ne vois pas pourquoi, sous le prétexte qu'on va pouvoir savoir qu'il y a combien alors. On aura les vrais chiffres, c'est ça le problème ? C'est de savoir par exemple qu'il y a 10 millions de musulmans en France. Est-ce que c'est ça le problème ? Est-ce que c'est ça ? Alors si c'est ça, mettons carte sur table, justement. Vous savez, moi, je rencontre beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration, qui ont fait l'effort d'aller à l'école. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Vraiment. Plus qu'on ne le croit. Mais ces gens-là n'ont pas ce complexe-là. Ils sont d'accord avec cette idée qu'il faut mettre les cartes sur la table, savoir combien de musulmans nous sommes, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut s'accrocher à la laïcité, à la République. Ce sont ceux qui ont des choses à cacher qui ne veulent pas. Je n'ai rien à cacher. Parlons clairement des choses. Et ça, c'est une des causes qui ont fait que l'extrémisme a pu pousser de façon aussi solide sur ce terreau-là. Et comme les gens ont le sentiment, ceux qui votent, qui sont un peu plus conservateurs, si vous voulez, dans leurs racines, ceux qui ont fait ce pays, ils ont le sentiment qu'on ne peut plus parler clairement. C'est pour cela qu'il y a eu cette espèce d'engourdissement national pendant des années où les gens se sentent démunis de leur discours. Tout de suite, dès qu'on dit quelque chose qui ne cadre pas avec la pensée unique, on dit « tiens, toi, t'es raciste, tu parles comme un tel ». C'est pour ça que les gens se sont fâchés, qu'ils ont voté extrémiste. Rendons la parole aux gens. Pas de complexe, parlons ouvertement des questions qui fâchent. Ne disons plus « jeunes ». Souvent, ils ne sont pas jeunes, ils ont 30 ans. Ne disons plus « quartier sensible ». Disons « banlieue explosive ». Là, il y a de vrais problèmes à gérer. Et si je peux le dire, c'est parce que personne ne pourra venir me dire que je suis raciste, vraiment. J'appelle toute ma famille alors. Mes frères, mes sœurs, mes nièces, mes neveux, mes cousins. Et on verra que c'est impossible d'être raciste. Et d'abord, c'est une horreur d'être raciste, vraiment. Mais il faut parler correctement des choses. Cette accusation de racisme ne doit pas être un prétexte pour ne pas parler ouvertement des questions et des choses. Ça ne doit pas être un prétexte.
Alors, il y a une autre pensée unique que vous battez en brèche dans ce livre, c'est la question de la religion, puisque vous vous revendiquez comme chrétienne catholique et vous dites qu'aujourd'hui, c'est même plus possible de le dire et que il y a une sorte de tabou en fait sur la question de la religion dans la société aujourd'hui. Vous, en tant que journaliste, vous le vivez.
Vous me permettez un vilain mot ? Nous sommes très focus, hypocrites pour ceux qui sont accrochés au bon sens de la langue. Dans ce pays, mais particulièrement à Paris, car je crois qu'il y a une vraie coupure entre la bulle, c'est une vraie bulle dans laquelle il faudrait donner des coups d'épingle, parisienne, et le reste du pays. Et là, en effet, il y a des gens qui vous disent, il faut dire si, il faut penser ça, et c'est comme ça. Et si vous sortez des plates-bandes, tac, vous êtes la ligne de mire. Et moi, je me fiche de ces gens-là. Et j'ose dire, je ne suis pas du tout en train d'afficher sur le toit du Louvre, qui est à deux pas d'ici, que je suis chrétienne, mais à l'occasion, je n'ai aucune gêne à le dire. C'est l'héritage de la France. Moi, je suis française. C'est l'héritage de ce pays. Je suis fière. Et quand je vois une église grande, modeste ou extrêmement grandiose, splendide, Notre-Dame, Chartres, mais aussi l'église de Bayeux, la cathédrale de Bayonne, je suis émue. C'est pour ça que je me suis accrochée à ce pays. Est-ce que c'est fasciste que de dire ça ?
Pour autant, vous êtes pour la construction de mosquées en France.
Je ne suis pas pour la construction de mosquées. Je suis pour que les gens qui pratiquent cette religion, et dans ma famille j'ai des musulmans, puissent prier dignement, sans être justement la proie d'extrémistes, ce qu'on appelle l'islam des caves, mais c'est vrai que là il y a un vrai danger. Je les ai vus au Pakistan, hein, ces extrémistes-là, notamment au Pakistan. Mais ces gens-là, il faut surtout pas les aider, parce que ils grandissent eux aussi sur ce terreau des interdictions, de la victimisation, etc. Les musulmans, qui sont respectueux de la laïcité, des autres, de l'univers mental des autres, qui sont respectueux de la République, peuvent tout à fait aller prier. Et je pense qu'avec eux, on devrait pouvoir faire un bout de chemin ensemble et fortifier la République. Ce qu'il faut empêcher, vous voyez, c'est, par exemple, ces hommes, maris, ou père, ou grand frère, qui exigent dans les hôpitaux qu'un médecin femme examine leurs épouses, leurs sœurs. Ça, c'est un danger. Pourquoi faut-il aujourd'hui rappeler que des médecins sont la proie de dangers, qu'il y a eu des cas de coups et blessures, parfois avec armes, concernant des gynécologues qui ont été frappés, malmenés, bousculés par des hommes qui trouvaient que les médecins masculins ne pouvaient pas toucher les patientes, des femmes. Ça, c'est grave. C'est encore plus grave que de construire un lieu de prière. Vous savez, les Allemands, à un moment donné, maintenant ils commencent à changer, avaient décidé, par exemple dans le Land de Berlin, que les mosquées ne devaient pas être sur le bord des routes. Parce que
la situation de neutralité, non pas la laïcité, de neutralité en Allemagne, impliquait que ce ne soit pas le cas. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Qu'il y ait des lieux sécurisés.
Financés par des fonds publics ?
Non. Non, non. Pas du tout.
Vous n'êtes pas pour la réforme de la loi 1905 ?
Ah non, certainement pas. Ah non. Ah non, la laïcité et la loi de 1905. Mais les catholiques ont mis plus de 40 ans, j'ai vérifié les archives, pour arriver à se mouvoir dans cet espace juridique né de la loi de 1905. Ils ont mis le temps, puis finalement, ça ne se passe pas si mal. Ils ont perdu beaucoup au passage, beaucoup. Et finalement, bon, ils arrivent à vivoter. Moi, je ne suis pas du tout pour financer des mosquées, hein. Vous savez, dans ma famille, j'ai un frère qui est musulman, qui a été à la Mecque, j'ai des neveux, nièces, musulmans.
Et votre père ?
Et mon père ! Donc je sais de quoi je parle, mais il n'y a aucune raison de... Mais la France, ceux qui veulent venir en France, bon ben, s'ils ont envie de prier dans des mosquées, alors ils financent les mosquées. Si je vais en Arabie Saoudite, est-ce que vous croyez que j'ai vu une église là-bas ? Vous croyez que j'ai vu une église ? Et les églises qui restent, qui restaient en Irak, elles sont dans quel état ? Avec les extrémistes qui ont mis le bazar.
Parce que justement, il y a cette intolérance religieuse qui n'existe pas en France.
C'est horrible, la tolérance religieuse. Et j'espère que tous ces conflits et l'essence de ces conflits ne va pas se propager jusque sur les bords de Seine ou ailleurs.
Comment est-ce que vous voyez la République de demain, en fait, Madame Mitterman ? Vous dites, je vous cite dans votre livre, « Nous sommes incapables de régler les problèmes en nous tenant la main. Nous avançons en ordre dispersé les uns contre les autres dans l'invective sans humanité. » Où trouver ce terreau commun ?
Chez les gens en France. Je ne parle pas des partis politiques, mais j'ai fait tout un tour de France en présentant ce livre et j'ai rencontré beaucoup de monde, de tous âges, tous milieux, tous niveaux... social, intellectuel, etc., si on peut schématiser ainsi. Et j'ai trouvé que sur toutes ces grandes questions, la République, la laïcité, le respect, la volonté de vivre ensemble, sur tout cela, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se rassemblent. En regardant les partis politiques et les attaches partisanes, on peut être enclin à croire que le pays est coupé en trois morceaux, voire plus. Non, je pense que sur ces grandes idées-là, les gens sont beaucoup plus unis et il y a des chemins de traverse entre partis, familles philosophiques, familles religieuses. Il ne faut pas croire que du côté des gens qui sont d'origine immigrée comme moi, que ce soit une planète avec une homogénéité constante sur toutes ces questions qui nous divisent. Ce n'est pas vrai, c'est traversé de beaucoup de contradictions, comme la société française au total, quoi.
Merci beaucoup, Maimona Hinterman.
Merci à vous.
Merci. Je rappelle que vous êtes auteur de Tête haute aux éditions Jean-Claude Lattès et vous êtes grand reporter à France 3. Merci d'être venu dans notre
studio. Je peux ajouter un petit mot ?
Je vous en prie.
C'est magnifique d'avoir une radio qui reflète les instances les plus prestigieuses de la culture en France. Canal Académie, vous vous rendez compte ? Si les académiciens se mettent à l'Internet, alors c'est magnifique. Bravo. Merci. On a envie qu'ils soient vraiment éternels.